depuis à peu près 6 mois, parce que nous n'étions pas encore arrivés à ce stade de la réflexion. Et cette question concerne le cours, enfin, en cours où vous nous parliez du « je suis », en rappelant, enfin, en nous faisant découvrir les 3 premières dimensions du « je suis », à savoir l'autonomie, la recherche de vérité et l'amour. Donc, je vous lis la question du frère. Vous avez parlé la dernière fois de 3 dimensions du « je suis » qui se trouvent dans l'esprit de la personne, qui sont la ressemblance de la Trinité dans la personne. La prudence, l'art et le corps sont-ils 3 manières dont l'esprit prend possession de mon corps ? Le second volet de la question, comment l'adoration ou attitude religieuse transforme-t-elle la dignité, la conscience et l'amour que j'ai du « je suis » ?
La première question, donc.
Est-ce que la prudence, l'art et le corps sont 3 manières dont l'esprit prend possession du corps ?
Je crois qu'il faut faire attention. L'esprit prend possession du corps d'une façon unique par la substance. Mon âme informe mon corps. Le corps sans l'âme est équivoquement corps humain. Il est corps par l'âme. Ça fait partie de sa définition de ce qu'il est. Et l'information est au niveau de l'être. Donc il y a là quelque chose d'unique. L'âme informe le corps. Tandis que le point de vue de l'art et de la prudence, ça implique le point de vue de l'opération. C'est l'âme humaine qui prend possession des activités de l'esprit. Des activités de l'esprit liées au corps. Des activités de l'esprit au point de vue de l'art. Des activités de l'esprit liées à l'opération. Donc, c'est le point de vue de la vie. Je crois qu'il faut bien distinguer ces 2 aspects-là. Le point de vue de l'âme qui est informé, le corps qui est informé par l'âme, donc union substantielle au niveau de l'être, et au niveau de la vie, c'est dans l'opération et à travers les opérations. C'est donc pas une union substantielle. Simplement l'usage du corps. On se sert du corps pour l'opération artistique et pour l'opération prudentielle.
Oui. Comment l'adoration ou attitude religieuse transforme la dignité, la conscience et l'amour que j'ai du « je suis » ?
Alors, il y a dans l'adoration quelque chose d'unique. Puisque l'adoration touche directement la création de l'âme. Si je ne vois pas la création de l'âme, je n'adore plus. c'est en fonction de mon âme dans mon corps, créée dans mon corps, que j'adore mon créateur, le créateur de mon âme. C'est pour ça qu'au fond, on supprime l'adoration quand on supprime la distinction de l'âme et du corps. Parce que Dieu ne crée pas le corps. Le corps n'est pas créé par Dieu, il est créé par les causes secondes. Dieu le crée en soutenant ses opérations secondes, mais ses opérations secondes, ses opérations secondaires, tandis que Dieu créant l'âme, et que nous prenions conscience de cette création de l'âme, on est en face d'une activité qui est propre à Dieu. J'adore Dieu en prenant conscience que Dieu a créé mon âme. Je n'adore pas Dieu en dehors de cette prise de conscience. Si, au point de vue philosophique, on ne voit plus la distinction de l'âme et du corps, on supprime l'adoration. Et c'est ce qui se fait, tu vois. Le démon est astucieux. Il supprime pour nous la distinction de l'âme et du corps, et par là, il supprime l'adoration. Et supprimant l'adoration, il supprime le sens de Dieu. Dieu, j'ai le sens de Dieu par l'amour. Et cet amour de Dieu pour moi, c'est le premier geste du Dieu qui crée mon âme. C'est pour ça que la création de l'âme est essentielle à ma découverte de Dieu. La grande astuce du démon, c'est de faire que le peuple n'adore plus. Il n'adore plus parce qu'il n'y a plus de distinction de l'âme et du corps. Je ne sais pas ce que c'est.
Mon père, dans cette question, on peut se demander, mais comment est-ce que la dépendance radicale à l'égard de Dieu dans l'adoration peut être source d'une dignité nouvelle ?
Source d'une dignité, oui. Comment, au fond, la découverte de la création de l'âme par Dieu et le retour de l'âme vers Dieu par l'adoration et la dimension fondamentale de la personne humaine. Pourquoi ? La personne humaine est liée au sens de la finalité. Quelle est ma finalité ? En définitive, c'est ça qui me fait comprendre la différence entre le point de vue de la nature et de la personne. La nature humaine a comme finalité la procréation, c'est-à-dire au fond la victoire de la vie sur la mort. Je peux mourir, j'ai un descendant. Je peux mourir parce que tous mes biens iront à mon descendant. Oui. C'est très sensible, ça, déjà, un foyer n'a pas d'enfant. Il meurt sans enfant. Il n'y a pas d'héritier. Et alors, par le fait même, il y a quelque chose qui manque à la personne humaine. Communiquer sa vie, son héritage. L'Écriture insiste beaucoup sur l'héritage. Ça m'a toujours beaucoup frappé, ça. On déshérite quelqu'un. Au contraire, on affirme que quelqu'un est vraiment fils si l'héritage est lié. Si l'héritage n'est pas lié à ça, non. Nous avons l'héritage du Père. L'héritage de Dieu, il nous est donné, la vision béatifique. Et ça, l'adoration nous fait saisir ça. Nous adorons Dieu parce que nous sommes fils de Dieu. Et que nous sommes appelés à vivre la même vie que Dieu. Alors nous l'adorons. Si nous n'étions pas appelés à vivre la même vie que Dieu, on ne pourrait pas l'adorer. Et on serait un fils maudit qui a perdu l'héritage. Je crois que ça, c'est une des choses qu'on ne doit jamais oublier, parce que les gens sont très sensibles à ça. Est-ce que ça représente l'héritage? Oui. Quand les parents meurent sans enfants, ou quand les parents avaient un ou deux fils, et puis que le fils meurt, il n'y a plus d'héritier. Il n'y a plus d'héritier. Et en Afrique, on doit avoir très fort ce sens-là, de l'héritage. Ça fait partie de la paternité. Et c'est pas la paternité, mais ça fait partie. Je manifeste que mon fils est vraiment mon fils et qu'il a droit à tous mes honneurs, à tout savoir de moi, s'il est mon héritier. Et le fait de se consacrer à Dieu sans héritier, oui, c'est l'héritage est pour Dieu.
Mais le patrimoine commun que j'ai au niveau naturel, oui, avec Dieu, c'est l'esprit, c'est, oui, la vie de l'esprit.
Et c'est comme ça que je peux être héritier de Dieu. J'ai aucun droit humainement. Ça m'est donné par pure faveur.
Mon père, il y a une autre question qui concerne plus le cours de la fois dernière. Le philosophe peut-il s'accomplir en vivant une belle mort, à la manière de Socrate? Quelle différence y a-t-il entre la mort de Socrate et le suicide assisté?
Matériellement, il n'y a pas de différence. Au bout de la finalité, c'est autre chose. Socrate meurt par amour pour son pays. Donc, il est martyr de son pays. Mais, tandis que le suicide assisté, c'est la disparition. Il n'y a plus de finalité. C'est une disparition honnête. On ne cherchera pas. On saura que je suis mort. Et si on ne savait pas, on viagerait. Oui, dès que je prends la finalité, c'est tout autre. Tandis que selon la causalité matérielle, c'est très semblable.
Mais mon père, est-ce qu'on peut chercher une belle mort, une mort noble?
Oui. Alors, au point de vue humain, sans le point de vue surnaturel, hein, au point de vue humain, ma vie est entre les mains de Dieu. Donc, je ne peux pas en disposer comme je veux, puisque le don de mon âme, créé par Dieu, est directement créé par Dieu. Donc il dépend directement de Dieu. Chercher une belle mort, c'est chercher une mort où je suis en conformité avec celui qui a créé. Puisque je reste toujours dépendant de lui, d'une dépendance radicale, dépendance à l'ordre de l'être, substantielle. Je crois qu'il n'y a pas d'autre belle mort que de mourir en conformité avec mon Créateur. Je suis chrétien, c'est en conformité avec le Christ. Je suis mort en conformité avec le Christ. Alors, mourir en conformité avec mon Créateur, c'est de mourir, je dirais, avec la permission de mon Créateur. Puisque je n'ai pas un droit sur mon âme. Mon âme étant créée par Dieu, reste toujours en dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est ça qui est de beau dans l'adoration, c'est que je reconnais cette dépendance à l'égard de Dieu. Je ne reconnais cette dépendance à l'égard de Dieu que par mon corps est en dépendance des hommes. Et c'est à l'égard de la famille, à l'égard des autres, oui, de la famille, que je suis dépendant. Donc une belle mort, c'est relativement à la famille. C'est le grand-père qui meurt avec toute sa descendance. Alors ça, c'est une belle mort. Oui, au point de vue humain. Mais au point de vue humain, il y a quelque chose de plus grand que la famille, c'est l'âme créée par Dieu. Et donc, une belle mort, ce sera nécessairement une mort en conformité avec mon Créateur.
Mon père, une dernière question qui va dans le même sens. Au niveau de l'intelligibilité, la mort est-elle une impasse, une énigme ou une inconnue pour l'homme vivant? Le problème de la mort ne pose-t-il pas aussi la nécessaire question de l'existence d'un être premier qui attirerait à lui la personne humaine? Autrement dit, l'homme est-il uniquement un phénomène ou un moment très remarquable de l'évolution sans savoir le pourquoi ultime de son existence?
Oui. C'est sûr, si l'homme ne regarde plus l'âme créée par Dieu, pour moi tout est là. L'âme créée par Dieu. C'est pour ça que dans les dimensions de la personne, vous voyez, l'acte créateur, l'acte d'adoration, c'est l'acte principal de la personne. Je remets ma vie entre les mains de celui qui m'a créé. Et ça, c'est l'acte principal de ma vie. Et je ne peux pas arriver à mesurer l'importance de cet acte créateur, sauf par l'adoration. L'adoration est le seul acte qui me permet de comprendre que je suis dépendant de Dieu. Dépendance dans l'ordre de l'être. Oui, ça a été, si on regarde la philosophie allemande du siècle des Lumières, c'est toujours là-dessus qu'ils reviennent. Cette dépendance à l'égard de Dieu comme créateur est supprimée. Parce que cette dépendance à l'égard du Dieu créateur, je ne suis pas maître de ma vie. Je suis dépendant de Dieu. Et la grandeur de la personne, c'est d'être vrai. Alors, je ne suis vrai que lorsque, regardant mon origine, je vois que mon origine fait appel à ma fin. Alpha et Oméga, ça se tient. Et j'accepte cette dépendance radicale vis-à-vis de Dieu. Comme n'étant pas une dépendance, puisque c'est grâce à la création que j'ai cette dépendance. Grâce à la création que j'ai la possibilité d'un dépassement de cette dépendance en remettant ma vie d'une façon amicale à celui qui l'a créé. Et au fond, c'est l'amour du Créateur sur moi qui est cause de mon âme et qui me fait comprendre. Puis découvrir cet amour premier et le reconnaître. Et c'est ça qui me libère de la dépendance. Feuerbach, le philosophe, insiste beaucoup sur la création, comme quoi, tant que je regarde la création de l'âme par Dieu, je ne peux pas être libre. Ma liberté, c'est au moment où je reconnais qu'au fond, que l'acte créateur de Dieu, vis à moi, dépasse un acte libre de. C'est une nécessité, tout simplement. Donc il n'y a plus de création. tant qu'il y a création de mon âme, je ne suis pas libre. Parce que j'ai quelqu'un qui m'a donné quelque chose librement. Et si ce quelqu'un qui m'a donné quelque chose librement, je ne le reconnais pas, je ne suis pas dans la vérité. Ce que Feuerbach est très intéressant parce que c'est la clé de l'athéisme. Et on vit de Feuerbach. Les athées vivent de Feuerbach. Je crois que Feuerbach est le philosophe allemand qu'on doit connaître et travailler pour voir ce qui est le propre de l'athéisme. C'est la négation de la dépendance du Créateur. Et c'est pour cela que tant qu'on adore, on reconnaît cette dépendance à l'égard de Dieu, dans l'amour. Mais pour se libérer de cette dépendance fondamentale, on doit comprendre qu'il n'y a pas d'adoration de l'âme. C'est l'évolution. Je suis le fruit de l'évolution. Je dépends de l'évolution, mais pas de Dieu. Dépendre de l'évolution, et c'est une chose nécessaire. Dépendre de Dieu, c'est pas une chose nécessaire. Et il faut aller jusque-là, je crois. Et il faut remonter à Feuerbach pour saisir combien l'athéisme est lié à l'adoration. C'est-à-dire que la négation de l'adoration conduit à l'athéisme. Il faut d'abord ne plus adorer pour être athée. Puisque l'adoration est un acte libre. Ne regarde pas l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu. Ça, c'est comme si j'étais au-delà. Mais je constate que la création, du moins, je constate que j'apparais dans la nécessité du développement de l'espèce humaine. L'évolution va jusque-là. Et l'évolution est nécessaire. Donc, je constate, à la place de la dépendance de Dieu, je constate je suis le fruit de l'évolution. Et le fruit de l'évolution ne me met pas en dépendance de quelqu'un. Je suis le fruit de l'évolution. On peut dire alors que la dernière dimension de la personne ne peut se faire qu'en voyant l'origine de l'homme, de l'espèce humaine. Tant que je n'ai pas vu cette origine de l'espèce humaine, je n'ai pas la dernière clé de la personne humaine. Je suis ou le fruit de l'évolution. Si je suis le fruit de l'évolution, je n'ai pas d'adoration. Je n'adore pas l'évolution, puisque l'évolution, ça n'existe que à travers ma nature. L'évolution n'existe pas en dehors de ma nature. Oui. L'évolution n'est pas liée à la personne. L'évolution est liée à la nature. Et l'évolution, dans son point de départ, a été posée pour supprimer l'acte créateur de Dieu. Il faut, je crois, bien voir ça. L'évolution veut expliquer ce dernier fruit de l'évolution est en moi. L'évolution se termine en moi. Il se termine dans ma propre vie. Alors, au point de départ, on parlait de l'âme. Maintenant, on n'en parle plus. Et l'évolution, qui est au fond anonyme, elle n'est pas personnelle. L'évolution, c'est la nature qui évolue. L'évolution explique ce dernier moment de l'évolution qui est la liberté. Et c'est très curieux. Qu'est-ce qui remplace la création de l'âme? Qu'est-ce qu'on met à la place de la création de l'âme? Dans une perspective d'évolution pure. Dans une perspective d'évolution pure, c'est l'apparition en moi de la liberté. Mon âme se ramène à la liberté, au phénomène liberté. Non pas au phénomène amour. Ce qui est premier, c'est la liberté. Oui. Et ça, je crois que c'est très important à bien voir. Que dans la perspective de l'évolution, qu'est-ce qu'il faut expliquer? C'est la liberté. C'est-à-dire le dépassement des causalités nécessaires dans lesquelles je suis enfermé. Il y a une espèce de rupture vis-à-vis du lien de nécessité pour expliquer la personne. Donc, le dernier moment de la synthèse des différents éléments de la personne, ce sera la liberté. une vision athée, dans une vision d'évolution. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en l'homme à la différence des autres animaux? C'est la liberté. La liberté que je ne vois pas dans les autres animaux. Tandis que la liberté fait partie essentielle de ma personne. Oui, c'est utile de voir que le point terminal, et là, je fais appel à la philosophie de Feuerbach, c'est la liberté qui est au fond centrale et qui explique le phénomène de la personne. Je suis une personne dans la mesure où je suis libre. Dans la mesure où je ne suis plus libre, donc toute obéissance est quelque chose qui limite ma personne. C'est parce que ma personnalité est limitée que j'obéis. Quand je suis tout gosse, ma personnalité est très peu développée, alors j'obéis au foyer dont je dépends. Il y a l'apparition de l'être humain. Une apparition suprême dans l'ordre de la liberté. Et le petit bonhomme que je suis n'est une personne qu'en mesure de sa liberté. Cela fait comprendre, voyez, comment l'évolution et la vision particulière de la liberté comme clé de voûte de la personne, ça se tient. La clé de voûte de la personne ne peut être que la liberté si je ne regarde pas la dépendance à l'égard d'un autre être. Au fond, la formation de la personne, c'est d'acquérir une liberté toujours plus grande. Puisque la dernière raison de la personne humaine, c'est la liberté. Je reprends tout ce que j'ai vu pour être plus libre. Mon autonomie, mon intelligence, ma volonté, c'est ce qui fonde ma liberté. Et cette liberté, elle demande à s'agrandir et à tout prendre. Je crois que c'est important, aujourd'hui surtout, de comprendre ce qu'est la personne humaine pour quelqu'un qui n'accepte pas Dieu. Où il y a le refus de Dieu. Et ce rejet de Dieu, il est capital. tout ce que nous avons vu comme développement de la personne humaine est indépendant du problème de la création de l'âme. Il est métaphysique. Mais Dieu n'étant pas encore posé, je n'ai pas encore découvert Dieu. Je découvre. Alors c'est ça qu'il faut, je crois, bien comprendre aujourd'hui. Je découvre ce qu'est ma personne humaine avant de poser l'existence de Dieu. Et c'est en dernier lieu la manière dont je vois que ma personne humaine s'achève que je pose l'existence de Dieu ou la non-existence de Dieu. Au point de vue philosophique, hein, parce qu'on peut poser la non-existence de Dieu alors affectivement, tout simplement parce que on veut être totalement libre. Et alors on ne pose pas l'existence de Dieu. Bon, on dit Dieu n'existe pas et l'homme est la réalité suprême de l'évolution. Et je ne l'ai pas expliqué, je constate. L'athéisme de la plupart des gens, et ça, c'est une constatation, ce n'est pas du tout une conclusion. Mais distinguons bien l'athéisme conclusion philosophique et l'athéisme attitude affective. L'athéisme attitude affective, c'est de considérer que l'homme est souverainement libre. Il n'a pas de maître. Il est le dernier point de l'évolution. Bon, ça, c'est l'attitude affective. Et puis, l'attitude philosophique de l'athéisme, c'est d'étudier la personne humaine selon ses différentes dimensions et en dernier lieu en réfléchissant sur l'homme à la manière de Feuerbach, je vois que la liberté humaine est en lui quelque chose d'absolu, quelque chose qui rejette tout être antérieur à lui. L'homme est foncièrement libre, il est radicalement libre. C'est la liberté qui termine le point de vue de la personne. Tout ce qui vient diminuer cette liberté diminue ma personne. Et je crois que ça, c'est la théorie philosophique, c'est l'exaltation de la liberté. Prenez chez Sartre. Tout le livre de Sartre, c'est de plaider l'athéisme comme étant le seul moyen de voir la liberté de l'homme. L'homme est l'être premier au-dessus de tout. est lui-même l'achèvement de l'évolution. Et il prend conscience, il est lui-même l'achèvement de cette évolution, et que cet achèvement de l'évolution en lui lui donne une liberté souveraine. Il ne dépend de personne. La question de l'âme ou pas de l'âme, c'est à rejeter. La question de l'âme a été inventée pour maintenir la dépendance du tout-tout à l'égard de son être. Tout simplement. La chaîne qui nous lie à Dieu, il a créé notre âme. Parce qu'il a créé notre âme, il y a donc une dépendance radicale vis-à-vis de Dieu. Alors, c'est très important de saisir l'existence de Dieu, c'est pour la non-existence de Dieu, c'est pour expliquer la liberté totale de l'homme. Le terme de l'évolution. Qu'est-ce qu'il y aura après? Je ne sais pas. Est-ce que cette évolution de l'homme et le terme de l'évolution de l'homme, ou bien il y a autre chose qui apparaîtra. Non, je ne sais pas. Je ne suis pas maître de l'évolution, je constate. On met évolution pour expliquer. On a besoin d'une explication pour expliquer le phénomène homme indépendant de tout le reste. Et alors, nous maintenons, et c'est là où il faut bien saisir, nous maintenons que la dernière dimension de la personne humaine c'est d'accepter, de reconnaître la dépendance dans l'ordre de l'être à l'égard d'un être premier, Dieu. C'est une dépendance radicale dans l'ordre de l'être qui me donne une liberté absolue. La liberté est saisie non pas au niveau de l'être métaphysique, elle est saisie au niveau de la vie. Et la thèse de Feuerbach, c'est la confusion complète de l'être et de la vie. Donc, le grand effort que nous devons faire, c'est la distinction de l'être et de la vie. Et au terme, pour saisir ce qu'est la personne humaine, c'est vraiment ça. C'est-à-dire l'existence de la métaphysique. L'athéisme ne peut tenir bon qu'en face d'une confusion entre l'être et la vie. Et que la vie est ce qu'il y a d'ultime. Ce n'est plus l'être. Ce qu'il y a de premier, c'est la vie. Ce qu'il y a d'ultime, c'est la vie. Ça, je crois que c'est très important à voir que l'athéisme contemporain provient de Feuerbach. Il faut avoir tous dans sa vie avoir lu Feuerbach. point de vue philosophique. Parce que ça a été ce qui commande l'athéisme intellectuel. Confusion entre être et vie. Si vous n'acceptez pas la distinction entre l'être et la vie, vous aboutirez nécessairement à cette conclusion. C'est très impressionnant, ça. Vous voyez, l'évolution, c'est la vie, c'est pas l'être.